chronique finance avec Premia Moya. Ici Guillaume Laurin sur les ondes de Choc FM 105.1 et j'ai maintenant le plaisir de rejoindre au téléphone notre spécialiste de l'économie et du monde de la finance, c'est Prim Nyamoya qui va nous parler. Aujourd'hui, Prim nous propose une approche un petit peu plus didactique que d'habitude puisque il vient de terminer une formidable biographie, celle du grand économiste John Maynard Keynes par Zachary Carter, et il m'en a proposé une superbe fiche de lecture avec énormément de détails historiques notamment, et on va essayer d'analyser ensemble à quel point la vie de Keynes et sa théorie économique, sa théorie macroéconomique, peut être utilisée aujourd'hui dans la période de crise que l'on vit. Bonjour Prim.
Bonjour Guillaume.
Tu vas bien ?
Ça va très bien, merci.
Ravi de te retrouver. Alors, cette biographie récente signée Zachary Carter, c'est une compilation un petit peu de ce qu'on sait sur le grand Keynes. Pour commencer, rappelle-nous qui est cet homme si important aujourd'hui et qui revient dans la plupart des politiques économiques partout autour de la planète. Son nom revient parce que on est en train de redécouvrir finalement les solutions qu'il a proposées dès le début du siècle dernier.
En réalité, l'homme est un humaniste complet. Il est d'abord le produit de l'Empire britannique au fait de sa puissance durant cette période victorienne qui s'achève en 1914. Son père déjà est professeur à l'université de Cambridge, où lui-même il va faire de brillantes études en mathématiques avant de se tourner à l'économie auprès des maîtres comme Pigou et Marshall.
Tu nous précisais que il est un homme presque descendant des Lumières, hein, puisque il brasse plusieurs disciplines différentes, hein, mathématiques, tu le disais, philosophie, économie, histoire politique, journalisme, et puis il évolue même avec beaucoup d'artistes dans un milieu donc extrêmement fécond et riche de créativité.
Oui, d'abord il fait partie de ce qu'on appelait à l'époque le Bloomsbury Group, qui était un mouvement d'idées qui regroupait les artistes et écrivains avec lesquels ils échangeaient des idées. Donc, il a évolué dans cette atmosphère. D'ailleurs, ses livres ont une marque littéraire très peu connue, d'ailleurs. Il a un style extrêmement élégant.
Ouais. Et ça qui est intéressant, c'est que au-delà de l'économiste rigide, c'est quelqu'un qui voit plutôt l'économie non pas comme une véritable science, mais comme une série de coutumes, de lois, d'ajustements politiques.
Absolument. C'est ce que d'ailleurs il dit, il était convaincu, lui, le mathématicien, que l'économie et les marchés ne sont pas gouvernés par des lois rigides comme la physique, mais plutôt effectivement par un ensemble de coutumes, de lois et d'ajustements politiques. D'ailleurs, il était beaucoup plus porté aux statistiques qu'aux mathématiques en économie.
Est-ce qu'on peut dire que Keynes est un pragmatique en quelque sorte ?
Absolument. Pragmatique, c'est bien le mot. Parce que lui, il suggérait aux jeunes économistes qu'il fallait d'abord s'inspirer du réel avant de formuler des théories.
Alors, sans entrer dans le détail de sa vie et de son histoire, on peut rappeler peut-être en quelques mots que la carrière de Keynes décolle au moment de 1914, la Première Guerre mondiale. Et finalement, après cette guerre, il semble avoir un petit peu raison contre tous si on analyse aujourd'hui l'histoire à l'aune de ce qu'on sait.
Absolument. D'ailleurs, la crise de 1914 va lancer en réalité la carrière de Keynes. C'est le moment où il est recruté après concours comme conseiller du Trésor, le ministère des Finances en Grande-Bretagne. Alors, très jeune, ce brillant économiste travaille déjà avec les puissants hommes politiques de son temps, comme le premier ministre Lloyd George et l'influent gouverneur de la Banque d'Angleterre. Et plus tard, il va travailler avec Churchill, qu'il va critiquer d'ailleurs vertement. Qu'est-ce qu'on lui donne comme équation à résoudre ? C'est comment gérer une économie en guerre. Alors, quand il négocie avec les Américains, il observe avec un profond malaise l'effritement de l'Empire britannique face à la montée des États-Unis, qui ne va pas tarder d'ailleurs à devenir la première puissance économique du monde.
Et oui, donc c'est ce que tu présentes également dans cette fiche de lecture sur cette brillante biographie de Zachary Carter de Keynes. C'est un véritable changement de paradigme que vit Keynes à ce moment-là. La guerre va changer fondamentalement l'ordre des choses et l'ordre victorien.
Ah oui, l'ordre victorien prend fin en réalité en 1914. Et c'est un nouveau paradigme, c'est maintenant les États-Unis qui vont être le nouveau maître du monde. L'ordre victorien du laisser-faire qui avait prévalu jusqu'en 14 est terminé. Donc il y a un nouveau paradigme qui va le remplacer. Et Keynes lance déjà l'hypothèse, à l'époque, assez radicale, que les marchés ne sont pas distincts de l'État, mais que le commerce, sa logique, ses mécanismes sont d'abord définis par une autorité politique.
Et ça, c'est très important parce que cela veut dire que l'État, la politique peut modifier, changer ses cycles économiques et on peut donc, par certaines politiques, aider à des relances. C'est ce qu'on va voir ensemble. Alors, évidemment, la conférence de Versailles, à la fin de la guerre, réclame des réparations de guerre gigantesques aux pays qui l'ont perdu, à commencer par l'Allemagne. Et c'est le moment où Keynes publie son fameux pamphlet « Les conséquences économiques de la paix ».
Absolument. Les conséquences économiques de la paix va asseoir sa réputation d'économiste influent auprès de l'élite européenne et américaine, mais lui attire la colère des hommes politiques qu'il avait critiqués avec virulence. Il s'agit de Lloyd George, qui était premier ministre à l'époque, Churchill, Clemenceau et le président Wilson. Il a des mots assez durs d'ailleurs. Et déjà à l'époque, dans son pamphlet, il dit, il fustige les vainqueurs pour leur capacité à vouloir extraire le maximum de l'Allemagne vaincue.
À l'époque, il entrevoit finalement les conséquences néfastes de ces demandes et finalement un petit peu la Deuxième Guerre mondiale.
Absolument, il prévoit déjà, et les événements ultérieurs en Allemagne ne vont pas tarder à lui donner raison, que l'affaiblissement de l'économie allait forcément engendrer bientôt un bouleversement politique des populations soumises à de dures conditions de survie.
Et c'est la période de la Grande Dépression également.
Ah oui, c'est la Grande Dépression, la période de Weimar, l'inflation débridée. Et, comme tu le sais, Mussolini et Hitler ne vont pas tarder à émerger des décombres de la Première Guerre mondiale.
En effet, donc encore une fois, Keynes a raison contre à peu près tous ses contemporains à ce moment-là.
Mais il avait raison trop tôt.
Il avait raison trop tôt, en effet.
Mais il a quand même réussi à faire passer partiellement ses vues. Il trouve un compromis à travers lequel les États-Unis, qui sont devenus le créancier du monde, acceptent de prêter à l'Allemagne des fonds qui serviront ensuite à payer les réparations à la France et au Royaume-Uni.
Ouais.
Et qui, à leur tour, vont rembourser leurs dettes de guerre qu'ils avaient contractées vis-à-vis des États-Unis. Alors, c'était vraiment ingénieux. Au départ, le président Wilson était absolument contre. Mais il va finir par accepter plus ou moins ce compromis historique.
Keynes, c'est une figure économique majeure qui a connu énormément de suiveurs pendant de très nombreuses décennies et puis qui a été un petit peu mise au rancard par d'autres économistes qui prenaient au contraire des approches d'austérité, alors que Keynes, on l'a vu, met en avant l'importance du leadership politique, de la volonté politique. Quand est-ce que revient en force Keynes, d'après toi?
Keynes revient en force spécialement aux États-Unis après la publication de son œuvre majeure, la théorie générale de l'emploi, l'intérêt de la monnaie. Le biographe l'appelle l'égal d'Aristote, d'Edmund Burke ou de Karl Marx.
Oui, donc c'est pour dire à quel point Keynes est considéré comme un auteur majeur et peut-être même bien au-delà de la sphère économique pure. C'est un véritable théoricien, un théoricien politique et un fin observateur des changements de son temps.
Ah oui, mais en fait, son trait de génie tient à une idée simple et évidente, que la prospérité ne peut pas être imposée au peuple, mais plutôt doit être planifiée et soutenue par un leadership politique. Donc c'est vraiment un changement radical par rapport à l'école de Vienne, celle de Hayek, qui prenait l'austérité et une politique monétaire restrictive, le retour à l'étalon or. Or, comme nous le savons, Keynes était entièrement contre le talon or.
Ouais, ouais. Alors, il y a une grande date juste avant la mort de Keynes, c'est la conférence de Bretton Woods. Rappelle-nous un petit peu qu'est-ce qui s'y décide et quel est le nouvel ordre financier international qui voit le jour.
Ah oui, pour Keynes, Bretton Woods constitue véritablement une apothéose pour sa carrière. Mm. La création de la Banque mondiale du Fonds monétaire international pour d'âpres négociations avec ses homologues américains. Et il réussit quand même également à sauvegarder le rôle du Royaume-Uni sur l'échiquier international. Rappelle-toi que la Grande-Bretagne était une nation complètement ruinée après la guerre, comme les autres nations d'ailleurs européennes.
Oui, oui. Ruinée au sens propre comme au sens figuré d'ailleurs.
Absolument, absolument. Et son trait de génie véritablement consiste à ce que sa pensée économique originale a fusionné à la fois et la psychologie, et l'histoire, la théorie politique, et l'observation empirique du monde, comme aucun économiste avant lui ne l'avait encore fait.
Et il aura donc, on le disait, de multiples disciples. Sa discipline, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la macroéconomie, que je crois, toi-même, tu as enseigné pendant longtemps.
Oui, pendant une vingtaine d'années. Donc, le fondateur de la macroéconomie, Keynes, va avoir beaucoup de disciples qui vont créer différentes écoles de pensée aussi. Il y a le keynésianisme, le néo-keynésianisme, le post-keynésianisme, etc. Et certains d'entre eux, d'ailleurs, vont ultérieurement obtenir des prix Nobel d'économie, comme Paul Samuelson, James Tobin et d'autres. Celui qui n'a pas eu, c'est le grand John Galbraith. Hmm. Certainement, c'était dû à son caractère aussi.
Alors, dans la biographie de Carter, tu nous rappelles qu'à la fin du livre, l'auteur va un petit peu plus loin et jusqu'à nos jours quasiment analyser à quel point Keynes a été important dans la politique économique internationale, que ce soit aux États-Unis, en Europe et finalement un petit peu partout dans le monde. Je le disais tout à l'heure, il est tombé, pas dans l'oubli, mais il a été peut-être moins lu, moins étudié à une certaine époque. C'était les tenants plutôt de Milton Friedman, comme tu nous le rappelles, qui ont pris le dessus avec une politique économique complètement différente.
Ah oui, c'était l'avènement l'école de Chicago qui est incarnée par Hayek et Milton Friedman qui triomphe avec les principes de coupe budgétaire pour faire des réductions fiscales et une politique monétaire restrictive. D'ailleurs, c'est curieux, c'est un président démocrate, Clinton, qui va sceller définitivement la fin de la pensée keynésienne. Ouais. Quand il fait appel au marché du capital international. Et ceci va provoquer plus tard, évidemment, la grave crise que nous connaissons, celle de 2008.
La crise de 2008. Et au moment de la crise de 2008, l'administration Bush et ensuite Obama vont renouer d'une certaine manière avec les politiques keynésiennes.
Ah bah absolument. Donc l'administration Bush qui commençait et Obama qui a continué, vont renouer avec la politique de relance économique au moyen des déficits budgétaires, ce qui va sauver le système financier du désastre. Tu te rappelles, il y avait 800 milliards de dollars qui avaient été mis en place pour sauver les banques, mais on remarque que cela a aussi créé les inégalités que l'on constate aujourd'hui.
En effet, Prime, alors on va peut-être aller vers le présent et aujourd'hui on voit énormément de politiques économiques plutôt assez concertées autour de la planète, que ce soit chez nous au Canada, aux États-Unis ou en Europe, et qui semblent s'inspirer en grande partie des leçons keynésiennes. Est-ce que tu penses que donc Keynes est aujourd'hui, j'allais dire, plus moderne que jamais?
Ah, plus moderne que jamais, parce que, comme tu viens de le souligner, l'ensemble des gouvernements de l'OCDE ont définitivement établi leur politique économique basée sur la relance économique, c'est-à-dire les déficits budgétaires, et ceci va probablement l'emporter à long terme, à mon avis, sur le néolibéralisme de dérégulation du laissez-faire, cher à Hayek et à Milton Friedman.
Eh bien, ça, comme tu nous le soulignes dans ton texte qu'on publiera également sur le site Choc FM, seul l'avenir nous le dira, mais on va suivre avec toi les prochaines évolutions des politiques économiques, notamment au Canada, et leur inspiration canadienne pour voir ensemble quels sont les fruits de ces politiques et comment elles fonctionnent. En tout cas, merci pour cette belle présentation de cette biographie de Zachary Carter, The Price of Peace, Money, Democracy and the Life of John Maynard Keynes. Merci beaucoup, Premier Maya sur Choc FM.